Merci de rester fidèle au programme du studio Kalangou. Il vient d'être 17h. Le journal en français, c'est avec Rouketop Draman. À la une de cette édition, la hausse des températures constatée ces derniers jours à Niamey est due à l'arrêt temporaire des précipitations. Selon la direction de la météorologie nationale, les détails avec le chef division prévision météorologique. Pour renforcer les relations avec le Niger et le Mali face aux défis sécuritaires, une délégation ministérielle était hier à Niamey. L'objectif est de faire passer un message du colonel Hassmi Goïta au général de brigade Abdrahmane Tchiani. En partie magazine de ce soir, un zoom sur le groupement des femmes de Balayara dénommé Wafakai. Bonsoir à tous et bienvenue. Depuis quelques jours, on observe une hausse de la température ambiante à Niamey. La hausse est liée au manque de pluie observé selon les responsables du service de la météorologie. Ousmane Bawa, chef de la division prévision météorologique à la direction de la météorologie nationale, explique au micro de Zainab Abusaidou.
Par rapport à la chaleur qui est observée, c'est vrai que les températures sont en légère hausse sur le pays. Et c'est normal, c'est relatif. Parce que depuis ces dernières 48-72 heures, il y a une accalmie en termes d'activité pluvieuse orageuse. Et c'est vrai que fin août était un mois très pluvieux, ou bien le mois d'août même globalement, ça a été un mois pluvieux. La première décade du mois de septembre et surtout du 1er au 5 septembre, nous avons eu quand même des activités pluvieuses orageuses, le 6 également. Mais quand même, après ces activités que nous avons observées, il y a eu une pause pluviométrique. Et c'est normal que nous avons l'intense évaporation, qu'il y a l'intense insolation. Donc c'est relatif du moment que nous avons de la pluie, il y a la fraîcheur. Et presque sur toute la banlieue du pays, également sur l'Aïr, la population observe que les températures sont en hausse parce que ces activités-là, il y a une pause pluviométrique.
Une délégation malienne conduite par le ministre d'État de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Meïga, était hier à Niamey. L'objectif est le raffermissement des relations entre le Niger et le Mali face aux défis sécuritaires, socio-économiques et politiques, a indiqué le ministre malien. La délégation a eu un entretien avec le premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen avant de rencontrer le président du CNSP, le général de brigade Abdrahmane Tchiani, pour lui faire part du message de son homologue malien, le colonel Hassmi Goïta. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, dans ses missions au Niger, apporte une assistance médicale dans certaines régions du pays. Depuis la fermeture des frontières, après les événements du 26 juillet, le stock des médicaments diminue. Pour le moment, la situation est tenable, selon Moussa Badié, coordonnateur santé au CICR. Il donne des précisions sur leur stock de médicaments au micro de Habib Ahmed et Rafika.
Pour l'instant, on est bien couvert et on devrait être bien couvert jusqu'à la fin de l'année dans le cadre de nos opérations propres du CICR. Ce qui se passe, il y a certaines molécules qui sont en rupture, pas seulement parce que c'est lié à nos opérations, mais c'est lié aux ruptures au niveau international. Donc cela, en fait, impacterait plus ou moins certaines de nos activités. Donc ça ne devrait pas entacher tout ce qu'on fait pour alléger, en fait, les souffrances des populations qui se trouvent dans les zones, comme j'ai dit, plus affectées aujourd'hui. Néanmoins, les sanctions aujourd'hui de la crise politique actuelle pourraient avoir des conséquences si des mesures correctrices ne sont pas prises pour nous permettre d'avoir les produits souhaités dans le pays. Mais quand on regarde globalement dans le pays, on constate une certaine rareté de certaines spécialités dans le cadre, je dirais, de certaines maladies chroniques.
La fermeture des frontières terrestres de certains pays de la CEDEAO avec le Niger fait partie des sanctions prises par l'institution sous-régionale après les événements du 26 juillet. Une décision qui a impacté les activités socio-économiques des populations de Gaya, ville frontalière avec le Bénin et le Nigeria. C'est le cas de Bassira Ibrahim, vendeuse de nourriture à Gaya, qui indique que toutes ses activités tournent au ralenti. Elle est interrogée par notre envoyé spécial Mokhtar Hamadou.
On souffre beaucoup. On demande qu'on rouvre les frontières parce qu'il n'y a pas de marché. Je vends de la nourriture. C'est les chauffeurs qui sont un peu bien. Pour les autres, dès qu'ils sortent du fleuve, ils rentrent dans les véhicules. Alors comment on peut vendre? À cause de la fermeture des frontières, nous rencontrons des difficultés. Le riz est devenu cher. Tout est devenu cher. Et le pire, il n'y a pas de marché. Nous souhaitons qu'on nous rouvre les frontières car lorsque les frontières n'étaient pas fermées, je gagnais par jour 50 000. De nos jours, je n'arrive pas à la moitié de cette somme.
À Ayoro, ville frontalière avec le Mali, dans la région de Tillabéri, le centre de santé intégré accueille plusieurs femmes des villages environnants victimes de l'insécurité pour les consultations prénatales et néonatales. Amsatou Garba, sage-femme au CSI d'Ayoro, explique comment elle travaille dans une zone d'insécurité. Elle est au micro de notre envoyé spécial Salamat Kadri.
Ces temps d'insécurité, on fait avec. Du matin au soir, nous sommes sur pied. Les femmes fréquentent beaucoup le centre pour l'accouchement et pour les consultations postnatales. On termine parfois à 6 heures. Par jour, on peut avoir 40 femmes en consultation prénatale. Mais avant, ce n'était pas comme ça. L'afflux des femmes dans notre centre s'explique par l'insécurité qui sévit dans leur contrée. Beaucoup de femmes viennent aussi pour la contraception. Si elles sont nombreuses, on les sensibilise sur l'importance de l'espacement de naissance. Chaque jour, on a un thème sur lequel nous débattons. Le plus grand souci, c'est qu'elles ne peuvent pas se déplacer la nuit. Quelle qu'en soit la gravité du problème, elles doivent attendre le lendemain. Par manque de moyens de déplacement, voiture, taxi, moto et pirogue ne peuvent pas circuler la nuit et que la majorité de ces femmes traversent le fleuve.
Un comité de femmes réfugiées vivant sur le site Tibesti de Ngingimi, dénommé Zamantare, s'est engagé dans la sensibilisation des femmes. Ce travail concerne l'importance de la paix, la tolérance, l'hygiène, l'assainissement et l'éducation des enfants. Madame Doumba Nana, présidente du comité, est au micro de Main Abdelaye.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes un comité de femmes. Par exemple, même s'il y a une querelle entre voisins, nous intervenons pour trouver une entente, recueillir leurs différends et les sensibiliser sur la paix. Et si le problème dépasse nos compétences, on les réfère à nos aînés. À leur tour, ils feront de leur mieux pour trouver une solution. Nous parlons aussi de propriété et assainissement de notre environnement. Nous avons un relais qui fait le tour des maisons de temps en temps pour les sensibiliser sur la propriété et notre comité aussi fait de son mieux. Par rapport à l'éducation des jeunes filles, ce sont les deux parents qui doivent intervenir, mais pas comme nous les femmes, car nous sommes toujours avec les enfants dans les maisons. Et dans nos sensibilisations, nous attirons l'attention des mamans sur comment se comporter avec leurs enfants et être à l'écoute de ces enfants, les guider et les protéger. Les femmes relais font de leur mieux sur ces thématiques, comme la fréquentation des CSI pour la santé des enfants ou pour les consultations prénatales.
L'insécurité qui règne dans la région de Tillabéri a entraîné le déplacement de beaucoup de populations. Plusieurs personnes ont fui leur village, c'est le cas de Bankilaré. Certaines femmes de cette ville-village ont trouvé refuge dans la commune d'Ayoro. Elles expliquent leurs conditions de vie au micro de notre envoyé Zainabou Abdoussaïdou.
Vraiment, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. C'est chez nous qu'il y a eu l'attaque. Même nos enfants, nous n'avons pas pu les prendre. C'est après qu'on les a retrouvés. Nous avons des difficultés parce qu'une personne qui n'a rien à porter avec elle et qui attend l'aide des bonnes volontés ne peut que souffrir. À notre arrivée, nous avons eu des problèmes de santé. Actuellement, cela fait 4 jours que ma fille et moi sommes malades.
Lorsqu'on est arrivé ici, personne ne nous a accueillis. Nous avions trop souffert avant d'arriver. On a tout laissé derrière nous. Ici, on était à l'air libre. On nous a seulement donné des nattes sur lesquelles nous dormons.
Les agressions sexuelles contre les mineurs sévissent encore et plus ces derniers temps à Ngingimi. En dehors des viols commis sur mineurs par des personnes âgées, le phénomène se retrouve entre jeunes. Un problème inquiétant pour la population selon Lawali Sani, juge des mineurs au tribunal de Ngingimi. Il est au micro de Maine Abdoulaye.
Cette problématique de viol nous préoccupe beaucoup ici dans la ville de Ngigimi. Ce phénomène se produit non seulement sur les mineurs mais également sur les adultes. Mais il est plus fréquent chez les mineurs. Certes, si c'est un adulte qui commet l'acte sur un autre adulte ou sur un mineur, il est facile de comprendre. Mais aujourd'hui, c'est entre les mineurs que ce phénomène se produit. Nous avons enregistré plusieurs cas et chaque mois, nous transmettons à la hiérarchie le nombre de cas enregistrés. Dans les dispositions du code pénal, il est clairement indiqué que ce n'est pas le fait que l'homme commette un viol sur la femme qui est seulement pénalisé, car la femme peut violer aussi l'homme. Donc, toutefois que l'homme abuse de la femme pendant qu'elle dort, et cela sans son consentement, ou il l'oblige par force, et bien que l'on n'ait commis ou pas l'acte, cela est considéré comme un viol. Même si c'est à travers des menaces, cela peut être aussi considéré comme tel.
La suite de ce journal, l'aviculture est une activité rentable et très prisée ces dernières années au Niger. Seulement pour sa rentabilité, il faut maîtriser et appliquer les règles de l'élevage des poussins, car ce sont des sujets très sensibles. Écoutons les explications de Adamu Aboubakar Dikimba, aviculteur au micro de Grâce et Rahinatou.
Les poussins, quand vous les prenez, il y a un soin approprié qu'il faut leur apporter. Et dans ce soin, il y a tout ce qu'il y a comme traitement à apporter. Il y a l'entretien en termes d'alimentation et également l'ambiance climatique qu'il faut garantir. Parce que quand vous avez des sujets qui arrivent juste après éclosion, il est nécessaire d'avoir un minimum de conditions de température autour d'à peu près 37-38 degrés dans lequel il faut maintenir les poussins pour pouvoir faire le démarrage. Et ça permettrait d'éviter des mortalités au démarrage. Après, l'alimentation de la volaille est différente de l'alimentation des autres animaux. Puisque c'est ce que dans le jargon technique on appelle un rationnement. Le rationnement, c'est une alimentation qui est fabriquée sur la base du besoin et de l'espèce.
Et puis la partie magazine de cette édition. Plusieurs femmes du quartier Zongo de la ville de Balayara, région de Tillabéri, se sont organisées en groupement pour mener des activités génératrices de revenus. Suivons ce reportage de Mamata Dandakwe.
Pour que les femmes puissent s'épanouir, il faut qu'elles soient solidaires. Nous nous sommes rendus ainsi dans le quartier Zongo, où beaucoup de femmes Hausa se sont réunies pour créer un groupement. On s'est entretenu avec la présidente.
On se réunit sous l'arbre de chez Fati Kaza pour collecter l'argent de la tontine et faire le tirage au sort. Nous sommes au nombre de 40. Notre groupement s'appelle Wafaka. Nous sommes très solidaires. On se réunit chaque mercredi. Nous faisons toutes les activités génératrices de revenus. Notre tontine, c'est en espèce. C'est ce qu'on appelle communément Achikwakwa. C'est la même qualité des produits que tu as donné qu'on te collecte à ton tour.
Titi est secrétaire au sein du groupement. Elle nous explique son rôle.
Chaque membre du groupe qui apporte son versement, pour le tirage, on coche. Et si c'est pour les Achikwakwa, on note tout ce qu'elle a apporté. Je lance un appel à l'endroit de toutes ces femmes. Soyons solidaires davantage, car ce groupe aspirait beaucoup de personnes. Si on n'est pas solidaire, personne ne viendra.
Elles sont nombreuses, les membres de ce groupement. Elle nous parle ici des bienfaits que leur procure le groupement.
Une fois ton tour arrivé, tu auras une diversité de produits. Nous ne restons pas les bras croisés. Nous travaillons beaucoup. Nos maris ne peuvent pas se venir à tous nos besoins. Les samedis et les jours de marché, nous sommes occupés par nos activités. Et Dieu merci, nous contribuons au mariage de nos enfants. Nous construisons des maisons.
Dans ce groupement, existe une femme mentor. Elle nous explique ici l'appui qu'elle apporte aux différents membres du groupement.
Moi, Elihida, le groupe qu'on a créé est un bon groupe. Elles sont toutes gentilles. Si tu veux faire une valise, tout le monde amène sa contribution. Lorsque Aïcha a donné sa fille en mariage, on a eu 100 pagnes et 400 000 francs comme contribution. On est solidaire, on s'entraide dans ce quartier. À Houssantiaï Kouraï, c'est avec force qu'on cherche pour subvenir à nos besoins.
Nous les femmes, si on veut bien s'épanouir, il faut qu'on soit solidaire et qu'on s'entraide.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir.